On m'a demandé de faire le commentaire d'une phrase majeure de Jésus, mise à mal, qui est que tous soient un. L'union, la communion, c'est le plus grand bien qu'on souhaite, d'abord par exemple pour sa famille. Quand il y a des bagarres et des divisions dans une famille, ça fait souffrir trois fois plus que des bagarres lointaines. Et donc à l'intérieur de cette famille, de l'Église, on peut dire que la communion a été mise à mal. Déjà, les apôtres entre eux, c'était pas très brillant. Un jour, Jésus se approche d'eux, il leur dit, de quoi vous parliez, les gars? Ils osent pas le dire parce qu'ils étaient en train de savoir quel était le plus grand parmi eux et qui c'est qui aurait la meilleure place au ciel et tout ça. Donc, des conversations très spirituelles chez les apôtres. Donc, faut pas être trop surpris. Des fois, nous, des chrétiens et des bons chrétiens, nous avons des prières ou des conversations ou des échanges qui ne sont pas tout à fait à la hauteur. Voilà. Donc, ça c'est. Mais je vois que c'est une des prières majeures de Jésus. Et donc, dans sa prière ultime, au chapitre 17 de Saint Jean, juste avant sa passion, j'entends Jésus dire que tout soit un. C'est la circulation de la charité, si on peut dire à un moment. Il dit ça, il leur dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Grosso modo, c'est un corps, et dans ce corps, le sang qui coule, c'est la charité. Donc il faut que la charité, si elle est bloquée à tel et tel endroit par un caillot de sang ou par des choses comme ça, ou par des conflits, c'est quand même très difficile. On peut dire qu'elle a été mise à mal, dans les familles aussi, assez souvent. Et donc dans cette grande famille de l'Église, on comprend qu'à la veille de sa passion, juste au moment où il va mourir, le soir du jeudi saint, à la fin de cette grande prière, de ce grand testament spirituel, chapitre 14, 15, 16, il y a sa prière, et le summum de cette prière, c'est « que tous soient un ». L'ultime prière du Seigneur, à la veille de sa mort, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, le jeudi soir, le jeudi saint au soir, relire tout, depuis Jean 13 jusqu'à Jean 17, pour être vraiment unis au Seigneur et à ses proches, pour nous préparer le mieux possible aux journées si grandes, essentielles de notre foi, du vendredi saint, du samedi saint et du dimanche, qui vont arriver après. Qu'est-ce que j'entends Jésus dire dans cette ultime prière? Un dialogue, d'abord c'est un dialogue merveilleux avec son propre Père. Il parle à son Père, en toute confiance, il sait vers quoi il avance, quel salut du monde, il ne cache pas sa peur. Vous voyez, on voit Jésus qui tremble, on voit Jésus qui est dans sa souffrance et dans son angoisse. Et il résume ça, il dit, Père, l'heure est venue, ça va chauffer quoi. Alors je sais que c'est le salut du monde, je sais que là toute la gloire de Dieu va se voir, enfin elle va se voir dans un désastre. C'est-à-dire que son fils bien-aimé, celui qui l'a envoyé sur la terre, il va mourir, il va être crucifié. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il utilise le verbe gloire. Donc, dans le désastre, au lieu de dire que voilà, ça va être la perte de sa propre vie et il va être traité comme le dernier des criminels, dans sa demande, il dit « Glorifie ton fils, Père, l'heure est venue ». Quelques minutes plus tard, là c'est la prière du soir du jeudi saint, il va être arrêté, il va être traité comme le dernier des malfaiteurs, il va être jeté la nuit dans un peu le cachot, je ne sais pas quoi, etc. Bon, donc c'est vraiment la fin, le désastre, le déshonneur complet, et lui, il y voit toute la gloire de Dieu. C'est-à-dire, elle est dans ce point culminant de l'amour que sera sa mort. Donc c'est assez étonnant de voir cette prière d'une soirée si rude, si sombre, qui commence par la lumière. Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Et là, il y a quelque chose de véritablement universel. Moi, dans cette prière de Jésus, dans Jean 17... une vraie merveille qu'il faut peut-être connaître par cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, disons, passer tous les soirs de jeudi saint à lire très, très doucement, je vois six petites étapes. La première, donc, c'est quand il est tourné vers son Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est-à-dire, l'acte dans lequel je rentre, ça va être toute la gloire de Dieu qui va arriver sur le monde et le salut. Donc, c'est magnifique. Ça, c'est un pouvoir que tu m'as donné, le deuxième point, afin que ton fils te glorifie et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il va donner la vie éternelle à tous. Donc, cette heure d'un grand désastre va être en fait l'heure d'un grand succès, l'heure du salut éternel. Alors, les phrases sont très contrastées, on le sait. On sait que c'est le salut du monde et que ça passe par un acte ignoble, par abject et par le traitement infâme de celui qui était le plus saint de tous les hommes et de toute chair ayant vécu sur cette terre. Alors, ce sont des portes qui s'ouvrent. Voilà, donc il dit la porte de la vie éternelle, il donne la vie éternelle. Il faut que ton fils te glorifie et que le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux qui sont là. Donc on va voir, et il nous explique, la vie éternelle, si je vous dis qu'est-ce que c'est, regardez la réponse qui arrive dans votre tête, la vie éternelle, c'est mon baptême, c'est que je suis en état de grâce, c'est après ma mort, etc. Et lui, il dit, non, la vie éternelle, il nous dit simplement, c'est qu'ils te connaissent, voilà. Que selon le pouvoir que tu as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à ceux que tu as donné. La vie éternelle, c'est le verset 3, je suis dans Jean 17, ceux qui ont leur Bible dans les mains, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le véritable Dieu. C'est quand même une grâce que nous pouvons demander pour nous. Oui. C'est-à-dire, c'est pour cela que tu es venu, tu m'as appris à prier ce Père de qui tu as tout reçu et de qui tu veux tout nous donner. Et dans cette prière-là, qu'est-ce que j'ai comme modèle ? Toi, bien sûr. Donc quand j'entends cette prière de Jésus, qui est si proche du Notre Père d'ailleurs, je réapprends à dire, à refaire mon Notre Père. Attention, pour nous, le Notre Père, comme on le dit tous les jours et qu'on le connaît par cœur et trop par cœur, c'est pas sûr qu'on fasse attention à tout. Et donc nous remettre dans la prière de Jésus, c'est la plus belle prière de Jésus, mais j'ai quand même un chapitre entier de l'Évangile où je vois et j'entends Jésus prier, pour reformuler, pour approfondir, pour étendre ma propre pauvre prière. Toi, le seul véritable Dieu, toute la vie éternelle qu'il a. Moi, cette prière de Jésus, qui est la matrice, si on peut dire, du Notre Père, et la clé de compréhension du Notre Père, attention à ces prières qu'on sait par cœur, parce qu'elles vont devenir du perroquet, la revivifier à partir de la prière de Jésus le soir du Jeudi Saint, c'est un bon cadeau qu'on peut se faire. En particulier le soir du Jeudi Saint, d'ailleurs. Souvent, dans les paroisses, on nous demande de rester à adorer le Saint-Sacrement. Et c'est le moment rêvé de lire Jean 17, parce que c'est la prière que Jésus fait à cette heure-là. Et elle réveille, elle fait renaître, elle redéploie complètement ma prière quotidienne. Donc, vous avez 5 ou 6 étapes qui sont là, les unes derrière les autres. C'est l'heure, elle est venue. Dans ce Fils, tu leur as donné tout. Afin que toute chair, tu lui as donné sur toute chair un pouvoir de vie éternelle, et tu l'as donné à tous. Et la vie éternelle, c'est rentrer en communion avec toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, parce que toi, tu es le seul véritable Dieu. Ça va avoir des conséquences. Ces conséquences, c'est que moi, si j'ai reçu la gloire de Dieu, le plus utile que je puisse faire pour les autres, c'est d'essayer de transmettre cette gloire. C'est-à-dire, de dire, voilà comment le bon Dieu m'est tombé dessus, voilà comment la parole de Dieu est arrivée en moi, voilà le chemin qu'elle a fait, et j'aimerais bien, je serais heureux de pouvoir vous faire ce cadeau si vos cœurs étaient ouverts, si vos oreilles étaient ouvertes, vos intelligences aussi. Alors, c'est ça qu'il dit, je voudrais qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils arrivent à te connaître, parce que toi, tu es le véritable Dieu, et Jésus-Christ. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, toute ma vie? J'ai essayé de te glorifier, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait ce que tu m'as dit. Oui. Alors il dit ça, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant j'entre dans l'heure la plus terrible, évidemment, qui est l'heure de la glorification, c'est-à-dire de sa passion. Quand il dit, maintenant Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, ça veut dire que c'est ma mort, c'est l'accomplissement de la totalité de ma mission. J'ai fait mon boulot. Et au verset 6, il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes, tu les as tirés du monde pour me les donner, c'était mes disciples, tu me les as confiés. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont reçu. Ils ont gardé ta parole. Ils ont vraiment reçu toutes ces choses-là. Alors maintenant, il faut que eux aussi, maintenant qu'ils ont reconnu cette parole, ils soient des messagers. Et je veux qu'ils partent. C'est des paroles que je leur ai données en ton nom, et maintenant, c'est la deuxième partie de cette prière, je prie pour eux. Donc ils vont partir, parce que moi, je vais vivre ma Pâque, et remonter à la maison, si on peut dire. Et donc, eux, je vais les envoyer en mission. Donc, la deuxième partie de ce chapitre 17, c'est pour eux que je prie. Alors, ils sont à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Et moi, je vais partir, je vais quitter ce monde, je vais venir vers toi. Alors, eux, s'il te plaît, ça c'est très beau, garde-les dans ta grâce, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Voilà. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais avec eux. Et là, il y a ce mystère des ténèbres. Quand il dit, sauf le fils de perdition. Tout d'un coup, cette mention de Judas qui est là dans la prière de Jésus, c'est vachement dur pour nous. C'est-à-dire, à l'intérieur de ma vie où je suis un chrétien, un prêtre, un évêque, etc., bon, pourquoi il y a tel péché? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a eu un moment qui est un moment de ténèbres? Donc il me sauve de cela, voyez. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, nous devrions avoir la totalité de cette gloire. Donc on lui fait confiance et on entend sa prière quand il demande au Père de nous garder. Voilà. Garde-les dans ton nom parce que c'est toi qui me l'as donné. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire ce chemin. La prière de Jean 17, elle est divisée en trois parties. D'abord, il prie pour lui, sanctifie ton fils, glorifie ton fils, je vais rentrer dans ma passion, ça va chauffer, quoi. Donc, j'ai vraiment besoin de toute ta présence. Ensuite, il prie pour ses proches, ceux-là, tu me les as donnés. Alors, je prie pour eux, hein. Je prie pas encore pour le monde. Je prie pour eux, garde-les, ils vont rencontrer des difficultés, eux aussi, il y en a même un qu'on va perdre, mais eux, je leur ai donné ta parole. Ça va pas être drôle pour eux, le monde va les haïr, il va les refuser... En fait, ils sont pas de la facture du monde, quoi. Ils sont pas de cette essence-là. Donc, forcément, ça va chauffer pour eux, quoi. Mais, sanctifie-les. Sanctifie-les! Ça veut pas dire, consacre-les. C'est quelque chose comme consacre-les, garde-les, quoi. Dans cette vérité que je te donne. Et avec une comparaison fantastique. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, quand vous êtes envoyé en missionnaire, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes 1:8, à chaque fois que je faisais des confirmations, ou j'en fais encore quelques-unes de temps en temps, je demande aux jeunes qui vont être confirmés d'apprendre par cœur. Actes 1:8. La dernière phrase de Jésus sur terre te fait missionnaire. Vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez envoyé dans le monde entier, et c'est ensuite qu'il y a tout le livre des Actes des Apôtres. La dernière phrase de Jésus, juste avant son ascension, au début du livre qui suit les Évangiles. Et voilà. L'enracinement est très fort. Vous voyez, l'enracinement qui existe entre lui et moi, c'est la même chose que la communion qui existe entre le Père et le Fils. Ah bah, vous allez dire, ça nous éclaire pas beaucoup parce que la communion trinitaire, c'est pas très facile à comprendre. Oui. Et pourtant, c'est le mystère le plus profond de l'unité et de la communion. Et j'imagine, quand je fais le signe de la croix, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou le début de la messe, très belle formule de la seconde aux Corinthiens, la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint. C'est très beau. C'est trois mots que saint Paul a essayé de trouver pour définir quelle est... En plus, on a la joie de l'entendre. C'est la formule finale de 2e aux Corinthiens, 13-13, je crois. Ce qu'on entend à chaque fois, c'est quand même très beau. La grâce de Jésus-Christ, ça veut dire c'est lui ton sauveur. Tu as ouvert les portes et tu as reçu ton baptême ou le pardon des péchés et tu veux vraiment recevoir cette grâce pour être dans le oui de Jésus. Tout ça vient de l'amour de Dieu le Père. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père qui est la source. Donc c'est cette charité suprême, etc. Et après, le boulot que tu vas faire. Qu'est-ce que c'est le travail que tu dois faire? Eh ben, mettre le monde en communion. Tu as bien vu, les gens ils bagarrent tout le temps. La communion de l'Esprit-Saint. Donc je veux que tu sois un artisan d'unité. C'est d'ailleurs une des demandes les plus essentielles de Jésus au moment de sa passion. Donc, c'est une formule fantastique, celle qu'on entend au début de chaque messe. Et c'est vrai, il faut essayer de la réveiller en nous, parce qu'elle est une des plus belles explications du mystère trinitaire. Jésus, c'est mon sauveur, et c'est lui qui m'a remis dans la vie, alors que j'étais dans la mort, il m'a sorti du péché, et il m'a remis dans la grâce de Jésus-Christ. Voilà. La source, bah, tout ça vient d'une source. Jésus était l'envoyé du Père, son Fils unique. En lui, il m'a tout donné. En lui, j'ai mis tout mon amour. Voilà. Voici mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis la totalité de mon amour. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on voit Jésus qui, d'ailleurs, dans Luc 10, 21, je sais pas si vous connaissez ce passage, vous avez les apôtres qui reviennent tout joyeux parce que les mecs, ils ont réussi à convertir des gens. Même les démons nous étaient soumis. On a réussi à chasser des démons. On a fait ci, on a fait ça. Enfin, ils sont un peu tout fiers. On le comprend, d'ailleurs. Ils sont heureux de ce qu'ils ont vécu. Et Jésus leur dit du calme, les gamins, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors là, évidemment, c'est un peu plus difficile à comprendre. Alors, la vraie joie. Donc, eux, ils sont joyeux, ils revinrent tout joyeux parce qu'ils ont eu des petits succès à 4 sous. On les comprend. Quand on a réussi un truc, on est content. Jésus essaie de leur faire prendre un peu de hauteur. Tout d'un coup, l'évangile me dit, c'est Luc 10, 21, à cet instant même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Alors là, je suis sûr que Jésus, c'est de la joie 100% pur sucre, si vous voulez, c'est pas un vantard. Qu'est-ce que c'est la vraie joie? Vous vous mettez dans ce verset et vous dites à Jésus, donne-moi la vraie joie et la tienne. À cet instant même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Mon Père ». Alors là, il y a un verbe intraduisible, « Je te rends grâce, je te bénis ». En fait, c'est le verbe qu'on utilise pour la confession. C'est-à-dire « Je confesse que tu es le seul et la seule source, etc. » Et que si vraiment je t'aimais et que je l'avais compris, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça. Nos péchés, dans la confession, ils doivent venir comme une parole de louange. En grec, c'est exomologèse, en latin confiteo, et c'est vachement difficile à traduire comme verbe, parce qu'en fait, c'est un verbe de joie. Nous, quand on voit ce qu'on faisait, des fois, on dit « je m'accuse », c'est pas vraiment bien trouvé, quoi. C'est plutôt « je sais que mon salut est là-haut, je sais que mon salut est en Dieu, et donc, à ce moment-là, je vais suivre Jésus, quand lui-même, il déclare, il confesse cette grandeur de Dieu, qu'il a vu à l'œuvre dans les apôtres qui reviennent et qui se vantent un peu d'avoir chassé une dizaine de démons et d'avoir fait un bon petit boulot comme ça qu'on leur avait envoyé. Il leur dit, je préférerais que vous accédiez à une joie supérieure. Et il en donne l'exemple de cette joie supérieure. Et là, vous avez le seul oui de Jésus dans l'évangile. Oui, Père. Et qu'est-ce qu'il dit après? Voilà ton amour qui déferle sur le monde. Ouais. Donc il décrit cet amour de Dieu, cette bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu qui va envahir, irriguer la terre et la renouveler, etc., etc. Jusqu'au fond du fossé. Vous voyez, juste après ce passage-là, il y a un passage que vous connaissez tous, mais personne de vous ne sait qu'il est là. C'est le bon samaritain. Ça, c'est beau. Pourquoi le bon samaritain est là? Tout le monde connaît le bon samaritain. Mais personne ne sait pourquoi il est là dans l'évangile de Saint-Luc. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi il l'a mis là. Parce qu'on n'a même pas lu les lignes qui sont avant. C'est un peu rigolo, quoi. Donc, il faut relire cet ensemble, entendre l'immense joie de Jésus. Jésus tressaille. C'est le seul endroit où vous voyez Jésus tressaillant d'allégresse, se tourne vers le Saint-Esprit. Et il dit, oui, Père, voilà ton amour sur le monde. Mais Jésus, quand tu dis, oui, Père, voilà ton amour qui descend sur le monde, le oui, c'est toi qui t'appelles, monsieur oui. Lui, il est tout le oui de Dieu qui est descendu jusque dans le fossé. Et dans le fossé, l'homme, il n'était pas très brillant, quoi. Alors il l'a ramassé, il a pansé ses plaies, puis après il l'a emmené à l'aubergiste, c'est-à-dire à l'église, et il a dit aux membres de l'église ou aux prêtres qui étaient là, il a dit, prends bien soin de lui, hein. Tu peux dépenser tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai. Vous savez ce qui vient juste après? C'est aussi un passage que vous connaissez tous, mais vous savez pas qu'il est là et pourquoi il est là. C'est Marthe et Marie. Pourquoi Marthe et Marie est là? Parce qu'en fait, à la maison, c'est comme une famille. On mange, on est des frères et sœurs, et il est là avec nous, et il mange avec nous. C'est un très 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 beau chemin. Celui du désastre humain, celui de Jésus, comme le sauveur qui a chassé tous les démons, de la joie de Dieu qui arrive sur le monde, et qui va descendre jusque dans le plus profond du fossé de ma vie, ou de nos vies. Et après, il nous relève, il va dire à l'hôtelier, il va dire ça à ton mari, à ta femme, il va dire ça à un prêtre, à ses paroissiens, ou vous aussi, le prêtre de votre paroisse. Jésus vous dit, prends bien soin de lui, tu sais, il a eu plein de péchés et de blessures, donc tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai. C'est une phrase catholique, complètement universelle et extraordinaire. Tous ceux qui sont autour de moi, si j'ai entendu le oui de Jésus sur eux, mes proches, moi aussi, il faut que je prenne soin. Prends bien soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai. Et le résultat à la fin de ce chapitre 10, c'est qu'on est à la maison. Et il mange avec nous. Et c'est chez Marthe et Marie. C'est un ensemble qui est extraordinaire et qui découle tout cela. Découle directement du oui de Dieu. Donc, ce que je veux, à partir de là, c'est montrer l'unité de l'Église, et le monde doit comprendre cela, et je dois le commenter plus tôt, si vous voulez, à partir de ce passage de Jean 17. Jean 17 est divisé en trois parties aussi. La première, c'est le rapport de Jésus à son Père, donc on l'a entendu, « J'étais glorifié sur la terre, je te glorifierai toujours ». Toute la vie de Jésus, c'était toute sa mission, quoi. C'était ces points de la glorification. Maintenant, ils m'ont écouté. Ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ce sont tes paroles. Je leur ai donné comme j'ai pu. Ils ont écouté tout ça, mais moi j'ai donné. En fait, quand même, ils les ont accueillis, nous dit le texte. Et ils ont vraiment reconnu que c'est toi qui m'avais envoyé. Dans la deuxième partie de ce Jean 17, Jésus regarde ses apôtres et dit « Ma prière va pas s'arrêter à ces gars-là ». Ils ont été ce qu'ils ont été, avec leurs péchés, leurs faiblesses, mais enfin, ils m'ont suivi, ils ont reçu cette parole, et maintenant, ils vont partir en mission. Je ne prie pas seulement pour eux. Ouais. C'est pas pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie, et après, je vais prier aussi pour tous ceux qui, grâce à eux, connaîtront ton nom. Voilà. Je suis sorti de toi, ils ont cru en moi, je prie d'abord pour eux, pour que ce message soit inscrit au plus profond de leur cœur. S'il te plaît, garde-les, Père Saint, garde-les dans ce oui, garde-les dans ton nom, voilà. Garde-les vraiment à cet endroit, dans la communion avec moi. Ici, il y a le mystère de Judas. Là, je sais pas si j'ai réussi dans ma vie à faire un temps de prière assez long sur ce verset. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. Et j'ai veillé à ce qu'aucun d'eux ne se perde. Merci Seigneur. Sauf le fils de perdition. Oh là là. Et ça, c'est dans l'évangile. Et c'est dans la prière de Jésus. Et dans Jean 17. Ah ben, c'est un verset que j'ai pas dû faire beaucoup de sermons là-dessus, hein. Et puis j'ai pas dû y passer beaucoup de temps pour le prier. Parce qu'il y a une espèce de révolte en nous. Il paraît que c'est l'accomplissement de l'Écriture. Bon, voilà. Et donc, à l'intérieur de l'Écriture, il y a le mystère du mal qui est là, qui me dépasse, et qui doit me conduire à un oui douloureux, parce que le oui n'est pas toujours facile, mais c'est celui que je dois donner. Et après, il me dit, j'ai beaucoup de boulot à faire en toi. Donc là, on est tout à fait d'accord avec cela. Il dit, ils sont dans le monde, mais ils sont pas du monde, faut que j'arrive à les garder de cela. Donc je prie pour eux tous. Tu m'as envoyé dans le monde, et ben moi aussi je les ai envoyés. Donc ça va pas être facile pour eux. Il y a qu'à voir ce qu'a été la fin de Jésus. Et le nombre de martyrs d'ailleurs dans l'histoire de l'Église. Mais je les garderai. Moi je me sanctifie pour eux. Toute ma prière et toute ma vie sont données pour eux. Et alors là vous avez un très beau cadeau dans la fin de ce chapitre 17, c'est qu'il prie pour vous. Donc il a prié son Père pour lui, parce qu'il va entrer dans sa passion. Il a prié pour ses apôtres. Et puis, à partir du verset 20, il dit, je prie pas que pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Ben, ça, c'est vous et moi. Vous et moi, nous croyons à la parole de Dieu, parce que les apôtres et les successeurs des apôtres, ils sont venus jusqu'à nous, etc. Et grâce à la parole de ceux qui nous ont précédés, qui étaient entre Jésus et nous, nous sommes devenus croyants. Et alors là, quel est son but? C'est afin qu'ils soient un. Aïe, 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 aïe. Et l'Église, elle a passé son temps à se diviser avec des schismes, avec des hérésies, avec des divisions et avec des ceci et des cela, etc. Comment ça se fait que dans l'histoire de l'Église, on a fait exactement le contraire de ce que Jésus nous demandait? Et toujours, on s'est repris sur ce sujet et on a compris qu'il fallait se revoir. Et quand le patriarche de Constantinople avait excommunié le pape de Rome et vice-versa, et tout d'un coup, ils disent, ben non, mais c'est pas possible. Et donc, on veut aller chez les uns et chez les autres, mais il y a des conséquences politiques, et il y a ceci, il y a cela. Donc, il y a toujours ce désir d'unité, parce qu'on sait qu'il est fondamental dans la vie de Jésus. On peut dire qu'à partir du verset 21, il nous explique que l'unité, c'est la condition du progrès de la foi. Tu veux avancer dans la foi? Alors va te rapprocher et t'unir avec quelqu'un avec qui tu as du mal ou qui ne pense pas comme toi. Parce que quand ils auront vu les autres, l'unité qui existe entre vous dans votre diversité et vos différences tout à fait légitimes, alors ils verront qu'il y a une unité qui vous dépasse. C'est pas que vous vous êtes mis d'accord comme des copains, ben des bandes de copains, il y en a partout. Tandis que ces deux-là, ils sont complètement différents et ils sont unis par un truc fondamental qui est l'amour du Christ. Et Jésus dit, alors, vous avancerez vers l'unité et le point essentiel, c'est pour que le monde croît. C'est à partir de là qu'est rené le mouvement de l'écuménisme. On s'est bagarré dans l'Église, on s'est bagarré comme dans toutes les familles. Bon, alors il y a eu des raisons complètement idiotes. Il y a le concile de Chalcédoine en 451, et puis les Arméniens, à ce moment-là, ils étaient en guerre avec les Perses. Et quand les gens du concile, ils arrivent, ils viennent lui dire, voilà ce qu'on a décidé au concile. Ils ont dit, non, nous, pas savoir comment on n'y était pas, ça vaut zéro. Ah. Et pourtant, c'est le plus ancien peuple chrétien du monde. Avec des chrétiens et des saints merveilleux. Et on s'est séparés, on s'est divisés de eux. Et pourtant, ça valait la peine de les lire. Moi, j'étais prêtre assez longtemps à Alfortville, où il y a une grosse colonie arménienne française. Et donc, j'ai découvert leurs textes et tout. Récemment, d'ailleurs, il y avait un très beau cadeau. Alors ça, c'est vraiment une initiative fort originale du pape François. La plus grande figure théologique des Arméniens s'appelle Grégoire de Narek, Narekatsi. Il a vécu au Xe siècle. Et ses écrits sont tellement beaux que, alors, La division datait de 451, donc il n'était plus dans l'Église catholique. Il a grandi dans l'Église arménienne, c'est pas de sa faute, c'est là qu'il était né. Et il a reçu des merveilles chrétiennes dans leur tradition à eux. Et on a des quantités d'écrits qui sont pas très connus de vous peut-être, mais qui sont connus quand même dans l'ensemble du monde chrétien. Et le pape François, tout d'un coup, l'a déclaré docteur de l'unité, docteur de l'Église. C'est-à-dire, ce gars-là, il est pas de la famille des catholiques, mais si vous lisez son enseignement, vous progresserez dans votre foi chrétienne et dans votre foi catholique. Ça, c'est joli. Et il a fait mettre à Saint-Pierre de Rome une statue, que vous pouvez aller voir si vous allez visiter Rome, la statue de Saint-Grégoire de Narek. Et ça, je trouve que c'était quelque chose de très beau, c'est-à-dire qu'il y a des grands saints chez les chrétiens. Et on les connaît, ils s'appellent Saint-Vincent de Paul, et ils s'appellent Saint-Jean-Bosco, et aussi des grands docteurs de la foi, comme Saint-Thomas, comme d'autres, etc. Mais il y a des merveilles ailleurs. Et lui, il n'était pas du tout responsable de ces divisions qui ont lieu en 451, quand lui, il était né au Xe siècle, c'est pas de sa faute. Et là où il a grandi, ben, il a reçu le message du Christ avec une très belle intelligence, avec une très belle vie spirituelle, un cœur tout à fait ouvert. Et ces écrits-là, ils ont été écrits par un schismatique, quelqu'un qui est d'une autre église. Donc on lit pas. Et François, il a dit le contraire. Il a dit, bah si. Parce qu'à partir du moment où il obéissait à Jésus, il n'était pas responsable de cette division, ni nous non plus. Et si véritablement Jésus agissait en lui, eh ben moi je vous conseille. Alors ça, c'est la première fois qu'on a vu ça. Donc je crois que c'était en 2017. Plus cette statue, comme je disais, dans les niches qui sont à Saint-Pierre de Rome, et où il a déclaré quelqu'un qui était non catholique, et qui a été une grande figure chrétienne après la division de son église, il a dit, pour moi, c'est un docteur de l'église, universel. C'est-à-dire, je sais que je ne suis pas responsable, et tout le monde, ceux qui vivent aujourd'hui, ne sont pas responsables de ces divisions des siècles passés et de ces brisures de l'unité. Il y a la prière de Jésus que tout soit un, mais dans toutes les paroisses, on se bagarre, et dans les diocèses, et dans les églises, et dans les ci, et dans les ça, c'est nos péchés, quoi. S'il y avait aucune bagarre familiale, ça se saurait. Donc dans notre famille, on est la même famille, c'est le même sang qui coule dans les veines et les artères, et tout, mais enfin, il y a des endroits où ça se passe pas très bien, etc. Et à l'intérieur de l'église, c'est pareil. Et tout d'un coup, il nous montre quelqu'un, il dit, ben lui, il y est pour rien, ces divisions, parce qu'il est arrivé 6 ou 7 siècles plus tard. Moi, je vous conseille de lire ses écrits, et ça vous fortifiera dans votre foi chrétienne. Mais il n'est pas catholique, oui, mais il est profondément chrétien. Et chrétien avec une telle énergie, une telle force, une telle lumière, qu'à mon avis, si tu te mets à le lire, tu y gagneras. J'ai eu la chance d'être prêtre à Alfortville, dans la banlieue sud-est de Paris, qui est une des plus grosses colonies arméniennes de France. Il y a 10 000 arméniens dans cette ville. Et j'allais très souvent dans leur église. Il m'a pris d'amitié, le prêtre, quand j'étais séminariste, diacre, et même jeune prêtre, d'ailleurs, c'est là que j'étais ordonné. Et je venais à leur office, et c'est lui qui m'a donné tous ces textes à lire. Je n'avais jamais connu chez les chrétiens, chez les catholiques, on ne m'avait pas montré. Et pourtant, je pense que c'était aussi des très belles choses quoi, qui sont arrivées. Donc il y a ces merveilles et il y a les désastres. Et les désastres, c'est les divisions, pour une raison absurde. Celle-là que je disais de 451. Nous, pas savoir, vous avez fait votre concile sans nous consulter, on veut pas de vos conclusions et on les déchire. Je dis pas que c'est un bel acte des Arméniens. J'aurais pu accueillir la pensée des autres. Enfin, si vous voulez des réactions comme ça, il y en a eu des quantités. En 1204, il y a eu la coupure avec les orientaux, donc une excommunication mutuelle du patriarche de Jérusalem avec le pape de Rome. Faut quand même le faire, quoi. 2004, c'était les 800 ans, il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'étais archevêque de Lyon à ce moment-là. Et j'ai appelé le patriarche Bartholomée, qui est donc le pape des orthodoxes, si on peut dire, le patriarche de Constantinople. Alors, c'était pour des raisons absurdes et idiotes. Comme Rome était morte, c'est à partir du 5e, 6e siècle, Rome, c'est quasiment plus rien. Et que Constantinople avait énormément augmenté, que l'empereur était à Constantinople, le patriarche de Constantinople a dit, donc le pape, c'est moi. Mais non, parce que les décisions de l'Église ne sont pas d'ordre politique. Donc le pape, c'est le pape de Rome, même si Rome aujourd'hui est réduite à quasiment rien du tout. Donc il y a eu une excommunication mutuelle, vous voyez comme on est gentil entre chrétiens, entre le pape de Rome et l'archevêque de Constantinople. Un vrai désastre. Ceci s'est passé en 1204. Et du coup, comme on arrivait en 2004, j'écris au patriarche de Constantinople. Moi, j'étais archevêque de Lyon, c'est primat de Gaulle à ce moment-là, donc ça avait une certaine place historique, si on peut dire. Et j'ai dit, je veux passer avec vous le jour de Pâques de 2004. Il m'a dit, ben venez, vous serez le bienvenu. Et ça a été superbe. C'est un chrétien merveilleux, quoi. Après, je l'ai accueilli dans la cathédrale de Lyon. Et il est venu, il nous a fait un commentaire de l'évangile qui était splendide. Et alors les gens me disaient, mais il vient en juillet, il n'y aura personne. Je dis, t'en fais pas, la cathédrale sera comble. Tous les orthodoxes de France étaient venus voir leur patriarche dans l'église du Primat des Gaules à Lyon. C'était des chemins d'unité. Or, en fait, malgré toutes ces divisions et ces oppositions imbéciles et ces violences et ces critiques mutuelles, on sait bien que dans son cœur à lui, Jésus est le Seigneur à 100%. Et moi aussi, j'aimerais bien que pour moi, il soit à 100%. Donc, vraiment, on est très proche, puisque tous les jours, on lit le même évangile, on mange la même parole, on reçoit le pain dont je crois qu'il est le pain vivant descendu du ciel. D'ailleurs, chez eux aussi, la consécration est considérée comme valide, vous voyez. Et ce rapprochement doit être fait, peut être fait. Donc, il y a beaucoup de petits pas qui existent depuis que l'écuménisme a prospéré, si vous voulez, et qui font le travail pour l'unité. Le travail pour l'unité, est-ce que ça interdit les critiques ? Non, non, au contraire même. Les critiques qui sont faites et qui sont justes peuvent aider l'Église à revenir sur les rails quand elle s'est égarée. Mais parfois, vous avez des critiques qui sont très violentes et qui sont finalement une excommunication de l'autre. Alors là, ça va pas être très facile. Exemple, le 31 octobre 1517, vous voyez tous ce dont je veux parler, il y a une petite église de l'Allemagne, dans l'est de l'Allemagne, qui s'appelle Wittenberg, et il y a un jeune père Augustin qui est très énergique, qui est amoureux fou de la parole de Dieu, fervent, trop fervent, peut-être orgueilleux, peut-être ci, peut-être ça, etc., etc., mais qui est révolté par tous les trafics des indulgences qu'il voit, par l'église qui s'est enfoncée dans le fric, etc., etc., et il placarde sur l'église de Wittenberg 95 thèses, Martin Luther, vous avez compris, contre le catholicisme. Alors, la révolte était belle, et il fallait se révolter contre ça, mais le résultat est un désastre. Et donc c'est un grand... Alors, il y avait eu le schisme d'Orient en 1204 entre Constantinople et Rome, et après il y avait la grande fracture de l'Occident, où en Allemagne et dans tous ces pays-là, il y avait des chrétiens qui étaient très fervents. Et quand un de leurs propres pasteurs leur dit « Mais c'est horrible, Rome est complètement esclave du fric, ils vendent des indulgences et ils se font du fric, soi-disant pour vous enlever des années de purgatoire, mais où est-ce qu'on en est, quoi ?» Donc une bonne révolte, mais cette révolte faite avec force, et y compris devant l'autorité, était légitime, parce que c'était un péché grave de cette autorité, mais la coupure, c'était une coupure. Et depuis, il y a eu une grande division. Donc c'est très très difficile ce que tous soient un. Parce que le péché détruit cette unité, et quand je vois le pape de Rome qui fait du trafic d'indulgence, ben, il est en train de détruire l'unité de l'Église. Mais si moi, Martin Luther, je me révolte contre ça et que j'écris « c'est un scandale sur le porche d'une église », c'est bien, quoi. Mais si je dis « à partir de là, par conséquent, nous coupons les ponts avec Rome », alors là, évidemment, je brise encore plus l'unité. Voilà notre propre histoire. Donc ça, ça vaut la peine d'être compris, parce que, je vous disais, vous avez donc la chute, la séparation de 431, 451, après 1054 à Constantinople, 1517. Enfin, il y en a plein de ces divisions, et tout le temps, quoi. Bah, nous, malheureusement, dans notre génération, on a encore assisté à une. Donc, c'était très poignant, moi, je me rappelle comme si c'était hier, donc un des plus grands théologiens du monde au XXe siècle était un Suisse allemand qui s'appelait Hans-Jürgen Balthasar, dont les écrits sont toujours lus, aimés, profonds, etc. Enfin, une grande figure théologique du XXe siècle est enterré dans Lucerne, donc dans sa ville d'origine, le 30, il est mort le 26 juin, le 30 juin 1988. Et le lendemain, alors lui, il avait fondé une revue qui s'appelle Communio et un mouvement qui s'appelait Communio en disant l'essentiel dans le christianisme, c'est la communion. Et finalement, c'est vachement vrai. C'est-à-dire, vous demandez à un petit gamin qu'est-ce qui est très important pour nous les chrétiens, il vous dira la communion. Et vous avez le plus grand théologien du XXe siècle qui vous dit, ben, en fait, mon but quand j'ai fondé la revue Communio, c'est pour que le sang du Christ circule dans tout le corps et que nous vivions tous en communion dans cette parole, dans cette grâce, etc., etc. Et je sors de cet enterrement où j'étais allé, donc, le 30 juin 1988, accablé, parce que le lendemain, il y avait Monseigneur Lefebvre qui consacrait 4 nouveaux évêques sans l'autorisation de Rome à Écône, et il faisait le schisme. Et alors on dit, mais alors, Seigneur, cette unité, elle sera toujours mise à mal. Toi, tu nous dis que tout soit un, c'est dans ta prière suprême, et nous passons notre temps à nous diviser. Nous critiquer, on a le droit. on est libre de dire, mais non, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation. Vous allez, il y en a peut-être 50 qui vont venir me voir après en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. Vous avez tout à fait le droit. Mais casser l'Église dans la division, ouais, parce que on n'est pas d'accord avec un tel, alors là, évidemment, ça... Et des schismes, il y en a eu, et il y en a comme ça encore des quantités. Donc ça, c'est notre très gros problème. Donc, quand on dit « ut unum sint », ce que j'avais à commenter aujourd'hui, je vois bien que c'est la prière un peu fondamentale de Jésus juste avant sa passion, parce que tout ce qui va tomber sur lui comme souffrance, etc., il va l'assumer, il saura l'assumer dans son oui. Saint Paul, dans 2 Corinthiens 6, je crois que c'est le verset 4, je ne sais plus exactement, il dit « Vous regardez toute la vie de Jésus, en lui, il n'y a eu que oui. » C'est superbe. Après, vous l'appliquez à votre vie. Si vous êtes marié, si vous êtes consacré à Dieu, si vous vous préparez à ça, il y a un grand oui de votre vie dans lequel il y a eu tout. Et en fait, ce oui, c'est ta vocation, c'est le oui de Dieu pour toi. Et donc, regarde Jésus et essaye d'entendre ce oui de Jésus. Moi, j'ai cherché dans l'Évangile, il n'y a qu'un seul passage où j'ai entendu, où j'ai vu un oui. Je vous le citais tout à l'heure, c'est... Les 72 revinrent tout joyeux et ils se vantaient un petit peu parce qu'ils avaient chassé des démons. Alors Jésus leur dit du calme les mecs, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut vous réjouir. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et là vous avez le seul oui de Jésus. Oui, Père, voilà ton amour qui descend sur le monde. Comme je disais, jusqu'à la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire dans le fossé et dans notre maison chez Marthe et Marie. Ça c'est ce véritable oui. Et c'est dans ce oui... que moi, je dois me situer. Alors, quand on a vu tout ça, beaucoup de chrétiens ont eu conscience de cela. Et ils ont dit, il y a un truc qui va pas, quoi. Comment on peut remettre la totalité de l'Église dans le oui, alors qu'elle a passé son temps à se diviser comme on se chamaille dans les familles? Et il y a toujours eu ce bel effort. Alors, il y a l'effort naïf des Anglais, ils ont dit, bon, nous, on est l'Angleterre, donc chez nous, il n'y aura pas de division, alors on va donner, on va dire que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre, c'est le pape chez nous, et le roi d'Angleterre, il est chef de l'Église d'Angleterre, comme ça, au moins dans les Anglais, on sera l'Église d'Angleterre et on sera unis. C'est pas vraiment la solution, mes chers frères d'Outre-Manche, vous voyez. Et alors, après, il y a eu des quantités d'efforts qui ont été faits pour... se rapprocher, notamment avec l'archevêque de Malines, Bruxelles, où on a décidé de fonder une semaine d'universelle prière pour l'unité qui est arrivée au début du XXe siècle. Ça, c'est un très beau cadeau. On constate la division. On sait que c'est complètement contraire à la volonté de Dieu. On ne sait pas trop comment on va faire, mais on va prier pour que tous soient un. Ça, c'est vraiment une injonction du Seigneur. Donc, comme on n'a pas tellement obéi à cet ordre, ben, il y a au moins une semaine où toutes les églises chrétiennes, on va prier pour que cette unité revienne. C'est un très très beau succès, ouais, qui est lancé par les conversations de Berlin-Bruxelles. Donc, et puis après, avec le Conseil œcuménique des églises, qui a maintenant son centre à Genève, et qui réunit 300 églises protestantes. C'est à partir du moment où il y a la division se multiplie. L'Église catholique, on dit, ouais, vous êtes un gros blocos, vous obéissez au pape, et alors même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, les petits doigts sur la couture du pantalon, bah, je dis, bah oui, dites tout de suite qu'on est des imbéciles. Tandis que si quelqu'un a une idée à mettre en valeur, etc., et qu'il fonde sa propre Église, bah, aussitôt on aura 300 églises. Et donc dans les églises protestantes, aujourd'hui, il y a à peu près 300 églises. À l'intérieur de l'Église catholique, on a eu des quantités de saints qui ont eu une idée. Et on a eu Saint Bernard qui a insisté là-dessus, puis Saint Ignace de Loyola là-dessus, puis Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, puis Saint Jean de la Croix, etc. Où ils ont fondé des congrégations nouvelles, où ils ont insisté sur un point de la révélation, sans rien nier du reste. Donc il y a des charismes différents qui sont une très très grande variété, dans une Église catholique unique. Elle est une sainte catholique et apostolique. À l'intérieur de cela, le Seigneur est généreux et produit des quantités de vocations diverses. Est-ce qu'il y a des conflits entre elles? Bon, peut-être, oui, c'est possible, on dit que des fois les jésuites et les dominicains ne s'entendaient pas tellement les ci et les ça. Bon, ben d'accord, mais dans toutes les familles, vous avez des bagarres. Mais il y a une famille, et à l'intérieur de cette famille, il y a un seul Seigneur qui est le Christ, et le Christ, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et tu seras, je te donne comme mission d'être le garant de l'unité. Alors, à l'intérieur de cette mission qui est difficile pour lui, parce que lui, il a une personnalité, il a sa pensée, etc., il doit véritablement travailler à cette unité. Est-ce que les autres chrétiens qui ne sont pas dans l'Église catholique sont soucieux de cela? Bien sûr. Et ils voient bien, parce qu'ils lisent l'Évangile, parce qu'ils aiment Jésus, et qu'on n'a pas obéi à Jésus dans l'histoire. Et donc à partir de là, c'est monté ce qu'on appelle le Conseil œcuménique des Églises, dans lequel, qui est basé à Genève, et dans lequel il y a peut-être 300 églises qui sont réunies. Moi, j'avais été, quand j'étais prêtre dans le diocèse de Créteil, j'avais été nommé responsable de l'œcuménisme, et j'avais été très touché de ça. Donc là, vraiment, dans le diocèse de Créteil, il y a beaucoup d'Arméniens, mais il y avait aussi les protestants, les anglicans, etc. Et on allait chez les uns et chez les autres. En fait, quand tu les connais, tu découvres des choses nouvelles. C'est-à-dire, tu vois des points d'insistance qui ont diminué chez nous, qui n'ont pas toute leur place. Et on est réveillé par les cris des Arméniens, on est réveillé, comme je vous le disais tout à l'heure, même le pape François, il a dit, lisez Grégoire de Narek, c'est un Arménien, bien sûr, c'est une culture complètement différente de la nôtre, mais je vous promets, celui-là, c'est un vrai chrétien. D'ailleurs, j'en fais un docteur de l'Église. Parce que grâce à Dieu, l'Église n'était pas encore divisée à ce moment-là, alors que maintenant, on est divisé entre les... Les Arméniens étaient très contents quand ils ont vu que le pape de Rome, qui ignorait, les catholiques romains, ils connaissent pas tellement les Arméniens. Quand ils ont vu que un théologien, un spirituel arménien a été nommé docteur de l'Église universelle, ah, c'était une très grande chose. Il y a eu là un trésor qui a été donné par le bon Dieu. Eh ben, je vous conseille de le lire et ça vous fera progresser dans votre foi de catholique romain alors que lui, il était arménien. Et c'est vrai. C'est-à-dire que nous, nous nourrissons de théologie allemande, mais aussi de Saint Jean de la Croix qui est espagnol, mais aussi d'un tel qui est italien, et puis aussi des martyrs du Rwanda, etc. Enfin bon, donc la vie chrétienne vécue sous des aspects très très différents, dans des cultures, et dans des continents fort divers, nous fait progresser dans notre propre foi et dans notre unité. Et alors on a vu, donc après en fait ce grand malaise, il y a des bagarres dans toutes les familles, d'accord, mais à l'intérieur de l'Église, c'est quand même la Sainte Église, ben c'est encore plus scandaleux, quoi. Donc, on a commencé à monter le Conseil œcuménique des Églises. C'est un peu bureaucratique, moi je l'ai pas mal fréquenté, etc. Mais quand même, c'est un bel effort. C'est-à-dire qu'au moins, on est sûr qu'on écoute et on entend tout d'un coup une merveille qui vient d'un protestant, une merveille qui vient d'un arménien et tout, que j'ai pas entendu chez moi, ni chez les catholiques. Et du coup, on dit, mais ça correspond vachement bien à ma foi catholique. Donc ce serait une bonne idée qu'on le dise davantage chez les catholiques. Et ça, c'est un vrai progrès. Au moment du Concile Vatican II, le pape Jean XXIII leur a demandé de venir. Vous pouvez pas être des évêques et des pères de l'Église ou des pères conciliaires, d'accord, mais vous pouvez bien venir quand même. Et alors donc on a eu pour la première fois des observateurs non catholiques qui venaient et qui participaient à des carrefours et puis qui aussi étaient invités à partager leurs sentiments dans les groupes et les ceci et les cela parce qu'ils aimaient Jésus, ils étaient heureux et même honorés peut-être d'être invités par les catholiques et ils savaient qu'ils avaient une parole fraternelle si elle pouvait être utile chez les catholiques. La grande figure française qui a lancé ce travail pour l'unité de l'Église est un prêtre de, on appelle prêtre de Saint-Irénée, c'est une petite société de prêtres qui est à Lyon, l'abbé Paul Couturier, et c'était un passionné quoi de l'unité. Et c'est lui qui a lancé vers 1925-30 la semaine d'universelle prière pour l'unité des chrétiens. Et maintenant, vous la vivez. Nous la vivons tous les ans. Grâce à lui, c'est un beau cadeau qu'il a fait. Il dit, je vois que tout soit